Europe 1.
Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Combien sont-ils à refuser l'appel sous les drapeaux ? Impossible ce matin d'évaluer avec précision le nombre de réservistes russes qui tentent de se soustraire à la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine. Il y a bien sûr les images de ces voitures devant les postes frontières en Finlande ou en Géorgie. Il y a aussi les témoignages et nombre de ces déserteurs ont choisi l'avion direction Istanbul en Turquie. Rémi Trio, le correspondant d'Europe 1 sur place, les a rencontrés à leur arrivée à l'aéroport. Reportage.
Dans le hall d'arrivée de l'aéroport d'Istanbul, Piotr a l'air un peu perdu, mais soulagé. Ce développeur informatique de 29 ans arrive de Moscou avec un ami et il peine encore à croire qu'il a réussi à fuir.
On ne pensait pas qu'on allait y arriver. On croyait vraiment qu'à n'importe quel moment, quelqu'un allait surgir pour nous remettre un ordre de mobilisation. J'aime me dire que je me serais rendu si j'avais été mobilisé, mais bien entendu, j'aurais été terrifié et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Jusqu'au décollage, c'était très stressant.
Avec une petite valise chacun, Anton et Anastasia viennent aussi d'atterrir en Turquie.
Elle avait un peu peur pour moi.
Pas juste un peu.
Tout juste mariés, ils ont eu de la chance de trouver une place sur un vol pour quitter leur pays.
Les gens ont peur de recevoir leur ordre de mobilisation. Les prix des vols ont été multipliés par 3. Un billet coûte environ 2 000 $.
Malgré ces prix élevés, tous les vols entre Moscou et Istanbul affichent complet jusqu'à la semaine prochaine et ces jeunes déserteurs ne prévoient pas de rentrer en Russie. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
Et cette guerre se joue aussi sur le terrain de la communication. Le président ukrainien Zelensky s'est adressé en russe via un message vidéo à ses futurs soldats. Protester, lutter, fuyez, rendez-vous, ce sont les seules options pour survivre. Il y a ceux qui fuient et il y a aussi ceux qui s'engagent. Selon Moscou, près de 10 000 réservistes se sont déjà portés volontaires.
Il est 7h03. Faut-il fermer les réseaux sociaux ? Dossier thématique du vendredi sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à ce soir, Facebook, TikTok, Instagram ou encore Twitter, ces plateformes sont devenues incontournables. Elles peuvent aussi transformer un quotidien en enfer.
L'enfer, c'est ce qu'a connu Jarod. Il a 21 ans aujourd'hui et un souvenir amer de ses années lycée. Son défaut, aux yeux de ses bourreaux, son embonpoint. Jarod était gros, insupportable pour ses camarades qui se sont acharnés sur lui. À l'époque, il a même pensé mettre fin à ses jours.
Je venais de changer de collège, j'étais un peu le petit nouveau. À l'époque, je faisais un peu plus en termes de kilos que je fais aujourd'hui. C'était pas mal des pointages du doigt, m'enlever ma chaise avant que je ne m'assoie en cours. Mais il y a eu aussi, bien sûr, une version virtuelle, donc du cyberharcèlement, beaucoup plus violent. Il y a pas mal de gens qui prenaient des photos de moi discrètement et qui les publiaient, en fait, dans un groupe Facebook. Et il devait avoir 30, 35, 40 personnes dans ce groupe Facebook. Certaines personnes sont venues devant chez moi prendre des photos de moi quand je sortais de chez moi. Sur le même groupe Facebook, il y avait aussi des photomontages de moi en train de pratiquer des actes sexuels avec des professeurs. Notamment, certains montages, ils ont été carrément affichés dans certaines toilettes du collège. Après cette grosse période de harcèlement, j'ai fait une assez violente dépression à l'époque. J'ai perdu environ 20 kilos. J'avais quand même fait une tentative de suicide à cette époque-là. J'avais parlé en fait légèrement de harcèlement physique, mais pas celui du cyber. Donc en fait, je gardais beaucoup pour moi.
Jarod, ancien élève de lycée, témoignage poignant recueilli par Alexandra Gégy.
Et on va continuer toute la journée de dérouler ce thème des réseaux sociaux. Dans quelques minutes, Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste, sera avec nous. Le gouvernement, pied au plancher sur les énergies renouvelables.
Emmanuel Macron a profité de l'inauguration du premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire pour afficher sa volonté. Il faut aller 2 fois plus vite dans la création de parcs éoliennes. Même chose sur le voltaïque, l'énergie solaire. Eh bien, au Mans, la SNCF lance une expérience à grande échelle. Une ferme solaire vient de sortir de terre au beau milieu d'une gare de triage. Reportage Charles Guyard.
Le fait que la SNCF est le premier consommateur d'énergie nous oblige à participer à cet effort de guerre.
L'effort de guerre pour Laurent Fèvre, directeur centre-ouest de SNCF Immobilier, c'est le déploiement des énergies vertes et pour cela la compagnie ferroviaire a de sérieux atouts.
On a aujourd'hui 19 000 hectares de foncier. Quand on a une inutilité ferroviaire, on réfléchit aussi à la reconversion d'un certain nombre de ces fonciers vers des fermes photovoltaïques.
Exemple à la gare de triage d'Arnage au moment où la SNCF a signé un bail de 25 ans avec une société spécialisée pour installer et gérer 30 000 panneaux solaires sur une vaste friche inexploitée de 17 hectares. Thomas Mézeret d'Arcolia Énergie.
C'est une centrale qui produit annuellement, ce qui représente la consommation de peu près 4 500 foyers.
Un rendement qui prouve que le solaire n'est pas une technologie réservée aux régions du Sud. Ici, le taux d'ensoleillement est d'en moyenne 80 jours environ par an. Et pourtant, en tendant l'oreille, on entend distinctement le bruit d'un onduleur.
Là, il marche à plein régime. Donc il y a deux onduleurs aujourd'hui sur cette centrale qui vont convertir ce courant continu en courant alternatif pour pouvoir injecter directement l'énergie sur le réseau.
Un réseau plus faiblement alimenté en hiver, ici en Sarthe, faute de soleil, d'où l'intérêt de multiplier ce genre d'installation dans tout le pays.
Sur toute la France, il est possible aujourd'hui d'installer des panneaux photovoltaïques.
Le Mans, Charles Guyard, Europe 1.
Autre gros, un grand dossier du moment, la réforme des retraites. Le gouvernement pourrait lâcher du lest.
Et Elisabeth Borne abordera la question à l'occasion d'un déjeuner ce midi avec Emmanuel Macron. La première ministre va tenter de dissuader le chef de l'État de passer en force via un amendement au projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Avec cet argument, la menace d'une censure du gouvernement est réelle. La NUPES et le Rassemblement national se disent prêts à la voter ensemble. Raison de plus pour temporiser, rappelle le président du Modem, François Bayrou.
Je suis certain depuis le premier jour que ça ne pourra pas se faire. Parce que je connais le président de la République, je sais qu'il écoute, je sais qu'il observe les sentiments du pays, je sais combien la préparation des réformes est nécessaire pour que les réformes aboutissent. Il a dit ça pendant toute sa campagne électorale. Et donc, je n'ai jamais cru qu'on pourrait imposer une démarche de passage en force ou à l'improviste. Jamais cru. Donc j'ai maintenu ma position et j'ai l'impression, en tout cas en écoutant ce que la Première ministre a dit, que c'était des arguments qui étaient pris en compte.
Ah, François Bayrou, le président du Modem au micro d'Arthur Delaborde. Et si ce n'est pas un amendement, eh bien ce sera un projet de loi à part entière. Présentation possible au Parlement début 2023. Les feux de forêt ont largement occupé l'actualité de cet été. Ils étaient le plus souvent d'origine criminelle. Au moins 48 incendiaires présumés ont été interpellés dans toute la France. Premier bilan, et il est encore provisoire, dressé par les gendarmes.
Allez, le football, les Bleus ont gagné hier soir et se sont un peu rassurés face à l'Autriche.
Une victoire 2-0 qui permet aux Bleus de se relancer dans cette Ligue des Nations. De quoi éloigner pour quelques temps les nuages qui s'accumule au-dessus du football français. Une belle soirée, Cyril de la Morinerie, en dépit des blessures.
Oui, les Bleus ont retrouvé le sourire. Après 4 matchs sans victoire, les champions du monde ont signé un succès important et rassurant à 2 mois du Mondial. Les Français se sont relancés dans la Ligue des Nations, mais surtout, ils ont totalement dominé les Autrichiens. Les champions du monde ont gagné, souligne le sélectionneur Didier Deschamps.
Il n'y a rien de mieux que la victoire, même si le score aurait pu être beaucoup plus lourd. On a eu la chance encore aujourd'hui d'avoir une belle ambiance au Stade de France. Voilà, c'est une très belle soirée.
Le public s'est enflammé sur le but de Kylian Mbappé et s'est levé pour Olivier Giroud. L'attaquant français s'est encore rapproché de Thierry Henry. Il n'a plus que 2 buts à inscrire pour égaler le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais surtout à 35 ans et 357 jours, Olivier Giroud est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de l'équipe de France. Cette nouvelle performance XXL va-t-elle convaincre Didier Deschamps de l'emmener au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde? Les supporters qui ont ovationné au Stade de France Olivier Giroud en rêvent.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Prochain match, ce sera dimanche contre le Danemark, mais à Copenhague.
Et à Copenhague, effectivement. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal.